civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse, qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité, reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission, animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif, vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontres et Dialogues.
Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à nos auditeurs et auditrices qui viennent de prendre l'antenne ou qui étaient déjà sur les ondes de Pastel. Vous êtes à l'émission La Prophétie, tous les vendredis de 20h à 22h. Émission préparée par l'association Rencontres et Dialogues. Ce soir, Inch'Allah, on va continuer sur notre thématique avec Tayeb Chouiref, qui est présent à mes côtés. Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Donc Tayeb Chouiref qui est traducteur et écrivain, donc il a traduit le Ghazali Ibn Arabi. Donc il était déjà venu il y a déjà maintenant 2 mois, et suite à l'émission, c'était sur la purification de l'âme.
Tout à fait.
Ce soir, Inch'Allah, on va parler d'une thématique, en l'occurrence ce sera suite justement et à partir du livre que vous allez sortir d'ici un mois, donc un livre sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers un recueil de hadith. Inch'Allah, voilà. Ça sera sur le cœur.
Voilà, ce sera en fait c'est un recueil commenté sur les enseignements spirituels du prophète. Donc il y aura un chapitre sur le cœur, mais aussi d'autres chapitres sur d'autres sujets qui touchent de près à la spiritualité.
D'accord. Barakallahu fik. Avant tout, on va donner une information pour ce mercredi 9 avril. Donc à partir de 19h, donc il y aura une conférence pour les Lillois, ça sera dans le Vieux-Lille, à la salle, c'est la Halle au Sucre, qui se trouve pas loin du tribunal, c'est dans le Vieux-Lille, c'est avenue du peuple belge. Donc ce sera une conférence sur du livre d'Éric Younes Geoffroy sur l'initiation au soufisme. Donc pour ceux qui sont intéressés sur cette thématique, le mercredi 9 avril à 19h à la Halle au Sucre, donc avec Éric Younes Geoffroy. Donc nous, ce soir, Monsieur Chouiref, on va parler, Inch'Allah, du cœur.
Voilà,
d'accord. On va traiter plus de ce sujet, sur l'enseignement spirituel du prophète, mais
concernant le cœur.
Concernant le cœur.
Exactement. Essayer de rentrer un peu dans le détail de ce qu'il a pu enseigner sur cette dimension capitale de l'homme, en fait, hein, son cœur. Et partir donc sur les quelques hadiths les plus importants qui traitent donc du cœur. Et puis j'ai aussi souhaité, comme ce sera le cas dans mon livre, éclairer ces hadiths par des commentaires de grandes autorités comme Al-Ghazali, qui en fait lui-même cite ces hadiths et puis les commente, les met en lumière et montre comment le croyant doit prendre conscience de cette dimension du cœur qui est en lui, et puis faire vivre cette dimension, rendre vivante cette dimension.
Peut-être dans un premier temps, pour nous éclairer, quand on parle du cœur, ça représente quoi finalement? Est-ce que c'est l'organe, le cœur, ou alors le... Il faudrait peut-être rentrer plus dans le détail, nous éclairer sur cela, et après on verra les différentes étapes.
Exactement. Alors, le mot cœur, donc en arabe, al-qalb, d'abord, pour signification principale, le premier sens, le sens littéral, c'est donc celui de l'organe qui fait circuler le sang dans le corps. À ce titre-là, il est l'organe vital le plus remarquable, disons, hein, ce que les hommes très tôt ont remarqué. D'abord parce que c'est un organe qui se remarque de l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le battement du cœur se remarque au pouls de l'extérieur. Et donc il n'y a pas besoin, disons, de connaître vraiment les détails de l'anatomie pour remarquer qu'à l'endroit du cœur, il y a un organe particulier qui est très actif et qui est à l'origine, donc, enfin, qui est le moteur entre guillemets, hein, de la vie en l'homme, et puis surtout, bah, ce que tout peuple sait depuis toujours, c'est que cet organe qui bat et qui fait circuler le sang dans le corps, il vit au rythme de nos émotions. Okay. Tout le monde peut remarquer que, effectivement, quand on est saisi par la peur, eh bien, on a les battements du cœur qui s'accélèrent. Et voilà. Alors, donc, très tôt, l'homme a su et a remarqué que le cœur, tout en étant un organe physique, a des liens très proches avec les sentiments et les émotions. D'où ce qu'on peut retrouver dans toutes les civilisations, l'idée que le siège de l'amour, c'est le cœur. Dans toutes les civilisations, hein, on considère que quand on aime, eh bien, c'est que le cœur est pris. C'est un sentiment qui va loger dans le cœur. Et ça a amené à penser et à comprendre que il y a un cœur physique et visible, et puis il y a aussi un cœur invisible, le siège des sentiments. Voilà. Alors, sur ça, sur cette expérience humaine, disons, commune à tous les peuples, eh bien, la révélation, et en particulier les révélations donc, dans le cadre du monothéisme abrahamique, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam, le cœur a été cité comme le lieu de la foi, comme le lieu, comme le réceptacle qui va contenir la foi. Et quand ce réceptacle ne reçoit pas la foi, ou quand il rejette la foi, eh bien, il y a tout un ensemble de raisons qui sont évoquées. C'est parce qu'il y a ce qu'on peut appeler des maladies du cœur, qui siègent dans le cœur et qui empêchent la foi d'y entrer. Voilà, alors ça, c'est, on va dire, un peu pour situer très globalement, hein, très schématiquement la chose. Pour ce qui est du terme arabe « qalb », les spécialistes de la langue arabe font souvent remarquer que la racine de ce mot est commune avec une autre racine qui veut dire « se retourner ». D'ailleurs, il y a le verbe « qallaba » qui veut dire donc « retourner une chose ». Et c'est effectivement la même racine. Alors on verra dans un hadith tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le lien entre les deux, entre le mot « qalb » qui signifie donc « cœur » et puis les retournements, « taqallub » du cœur. Hein, le fait que le cœur peut changer très rapidement, en bien comme en mal, justement. Mais le premier hadith que l'on va évoquer, c'est celui donc qui est très connu, qui a été médité, qui a été commenté par d'innombrables commentateurs. C'est celui de, qu'on peut appeler hadith al-mudra, le hadith du morceau des chairs. An Anas ibn Malik, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jasadi mudra, idha saluhat saluha laha sa'irul jasad, wa idha fasadat fasada laha sa'irul jasad. Ala wa hiya al-qalb. Rawahu al-Bukhari. Il y a dans, d'après Anas ibn Malik, hein, le célèbre compagnon, le prophète a dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est assaini, tout le corps le sera. Et s'il est corrompu, tout le corps le sera. Ce morceau de chair n'est autre que le cœur. Alors, ce hadith, il est vraiment important parce que, d'abord, il reconnaît que le cœur est un morceau de chair. Donc on retrouve l'expérience commune, hein, je veux dire, le côté physique donc, du cœur. Mais en même temps, il part du côté physique pour entrer dans la spiritualité, pour entrer dans le domaine spirituel en disant que si ce morceau de chair est sain, tout le corps va être sain. Et s'il est corrompu, tout le corps va être corrompu. Mais la corruption dont parle ici le hadith, évidemment, il ne s'agit pas d'une maladie, il ne s'agit pas d'une gangrène hein, physique qui pourrait toucher le cœur et qui pourrait s'étendre. Il parle ici donc de ce qu'on appelle l'akhlaq, de la noblesse de caractère, ou l'absence de cette noblesse de caractère. Mais alors, ce qu'il faut donc remarquer ici, c'est que en partant du point de vue physique, eh bien, on peut s'élever ensuite au spirituel. Ça veut dire que le cœur, ça n'est pas ou un organe physique ou une réalité spirituelle, c'est les deux. C'est vraiment les deux. C'est-à-dire que ce morceau de chair qui fait circuler le sang, comme on l'a dit, sert de support à quelque chose qui est immatériel, à quelque chose qui est qu'on peut localiser plus ou moins dans la région du cœur, à gauche donc, mais enfin qui reste immatériel. Et ce côté central du cœur, le fait que le cœur est vraiment le centre de ce que nous sommes, de ce que l'homme est, il est évidemment affirmé, souligné par plusieurs versets du Coran, dont celui-ci. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, dit le Coran, mais ce sont les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Et donc ce verset donc de la sourate 22, c'est le verset 46 de la sourate 22, insiste sur le fait que la fermeture à toute spiritualité, le fait d'être vraiment opaque et imperméable à tout discours spirituel, et ici le verset fait référence à ceux qui étaient fermés à la révélation, ceux qui sont incapables de voir qui était le prophète. Vous savez que le prophète a été compris par les riches, parmi les Quraysh, comme quelqu'un qui voulait devenir puissant. Il voulait simplement de prendre le pouvoir et puis être l'homme le plus riche, etc. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes portent ça en eux, et donc ils projettent sur lui ce qu'ils sont, et ils sont incapables de le voir réellement. Et ce verset, donc je viens de citer, dit que s'ils n'arrivent pas à voir le prophète pour ce qu'il est, à le voir dans sa réalité, voir réellement ce qu'il représente, ça n'est pas parce qu'ils ne voient pas par les yeux, c'est parce qu'ils ne voient pas par le cœur. Et là, on aborde donc une autre fonction du cœur, c'est la vision, le fait de pouvoir percevoir certaines réalités par le cœur. De la même façon que nos yeux nous aident à percevoir ce qui nous entoure, eh bien le cœur, normalement, s'il est sain, comme dit le hadith que j'ai cité, doit être capable de voir certaines réalités spirituelles. De voir, par exemple, la sincérité. Voir qui est sincère et qui ne l'est pas. Ressentir et percevoir la sincérité. Et de fait, du vivant du prophète, certains dans son entourage ont tout de suite perçu qu'il était sincère. Il ne pouvait pas prétendre recevoir un message du ciel juste pour devenir l'homme puissant de la Mecque. Et puis d'autres pensaient que si. Alors, cet aspect-là, on pourra en reparler tout à l'heure, il est très important parce que finalement, la connaissance la plus précieuse, ce que l'homme peut percevoir de plus précieux, ça ne dérive pas d'une analyse du cerveau, mais dérive d'une vision du cœur. Et c'est là où, en fait, on peut comprendre qu'il y a deux types de connaissances. Il y a une connaissance que l'on peut dire analytique, c'est-à-dire une réflexion par le cerveau, on fait des raisonnements, on construit des raisonnements. Et puis il y a la connaissance du cœur qui n'est pas une construction de raisonnement, qui est vraiment une vision. C'est une perception, on ressent ou on ne ressent pas les choses. Et deuxième aspect que l'on peut aussi citer sur les capacités du cœur humain, c'est donc la sensibilité à la présence divine. Un verset de la sourate Al-Anfal, donc la sourate numéro 8, au tout début de cette sourate, c'est le verset 2, nous dit « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Seuls sont vraiment croyants ceux dont les cœurs frémissent à l'invocation de Dieu. » Et le wajal al-qalb en arabe, le frémissement du cœur, le fait que le cœur frémit lorsque Dieu est invoqué, lorsque le nom de Dieu est invoqué, eh bien c'est un signe, c'est une caractéristique, on pourrait dire, du cœur vivant. du cœur qui est réellement éveillé. Alors on verra tout à l'heure que le cœur peut être soit vivant, éveillé, soit malade, donc on va dire à demi éveillé, entre l'éveil et le sommeil, soit mort. Hein, donc vous avez dans le Coran et dans les hadiths des versets qui montrent bien cela, qu'il y a ces trois grandes divisions du cœur. Le cœur vivant, il est appelé dans le Coran Al-Qalb Salim, le cœur saint. Alors saint, pas S-A-I-N-T, mais S-A-I-N, saint, en bonne santé, on pourrait dire. Al-Qalb Salim, et puis Al-Qalb Al-Marid, le cœur malade, dont parlent de nombreux versets. Et puis il y a Al-Qalb Al-Mayyit, celui donc, voilà, qui est complètement fermé.
Barakallahu fik. Pour cette introduction, on va donc s'opérer une pause, Inch'Allah, et on se retrouve d'ici quelques minutes, donc restez sur les ondes de Pastel. De retour sur les ondes de Pastel FM, 21h53, donc bienvenue nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, donc continuent à rester sur les ondes de Pastel, 99.4. Donc ce soir, Tayeb Chouiref, traducteur, écrivain d'Al-Ghazali, d'Ibn Arabi, Inch'Allah, qui va nous sortir un livre d'ici un petit mois. On en reparlera. Donc un livre sur les enseignements spirituels du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers un recueil de hadiths. C'est ce que ce soir, en tout cas, on est en train de faire.
Voilà.
À travers l'évocation du cœur, à travers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a parlé dans un premier temps du cœur physique, en passant au cœur spirituel, au cœur réceptacle de sentiments et ses différents mouvements, en tout cas. Voilà.
Voilà.
Alors on va continuer sur cela.
Voilà. Alors, effectivement, donc on a vu que le rôle central du cœur, le fait que le cœur est vraiment ce à partir de quoi toute la personnalité de l'homme va se construire. Ce qui, dans le premier hadith, il était dit, si ce morceau de chair est saint, tout le corps sera saint, s'il est corrompu, tout est corrompu. Ça veut bien exprimer cette idée-là, à savoir que c'est le noyau, et autour de ce noyau va s'organiser le reste de la personne. Et pourquoi est-ce que ce hadith insiste tant sur ce noyau? C'est parce que on ne peut pas changer le reste de la personne si le noyau rayonne dans un sens négatif, parce que ce que nous sommes, les couches extérieures de notre personnalité, ne sont que la manifestation de ce noyau. On ne fait toujours que manifester ce qui est au plus profond de nous-mêmes et qui loge dans ce cœur. Et le deuxième hadith donc va venir nous donner un peu plus de détails sur ce rôle central là du cœur. An Abi Hurayra, إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Donc d'après Abu Huraira, en vérité, Dieu ne regarde ni votre apparence ni vos richesses, car il ne regarde que votre cœur et vos actions. Rawahu Muslim. Donc on retrouve ce hadith dans le recueil de Muslim. Ici, qu'est-ce qui est souligné? C'est le fait que le cœur, on a parlé tout à l'heure qu'il était le réceptacle de la foi. Ici, on voit qu'il est le lieu du regard de Dieu. Dieu ne regarde, nous dit ce hadith, que votre cœur. Il ne regarde ni vos apparences, ni vos richesses, etc. Il est donc le lieu du regard de Dieu. Il est le lieu que Dieu regarde en nous. Et forcément, il est ce qui va avoir de l'importance auprès de Dieu en l'homme. Cette insistance sur le lieu du regard à la fois nous montre pourquoi le cœur a cette place centrale en l'homme, mais nous montre aussi que si l'on veut se réformer, et si l'on veut donc développer sa vie spirituelle, si on veut réellement avoir une vie spirituelle, eh bien, il faut d'abord revivifier ce cœur, revivifier ce cœur qui est le lieu du regard de Dieu. Et on va voir donc ici le commentaire de Razali, qui cite expressément donc ce hadith dans l'Ihya, et qui nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en vérité, Dieu ne regarde ni votre apparence, ni vos richesses, car il ne regarde que votre cœur et vos actions. Si Dieu ne regarde que le cœur, c'est parce qu'il est le lieu où se forme l'intention, nous dit Al-Ghazali. Sache que les termes intention, niya, volonté, irada, et visée, al-qasd, ce que l'on recherche, ont une seule et même signification. Ils désignent un état intérieur et une caractéristique du cœur fondée sur deux choses, la science et l'action. La science précède l'action parce qu'elle en est la racine, al-asl, et la condition nécessaire, al-shart. L'action suit la science car elle en est le fruit, elle en est une application. Il en est ainsi car toute œuvre, je désigne par là les mouvements et les repos que nous pouvons avoir, procède d'un choix. Donc j'arrête ici la citation, je la reprendrai après. C'est tiré donc du quatrième tome de l'Ihya. Alors ici, Razali nous permet de comprendre un peu pourquoi Dieu ne regarde que le cœur. Parce que c'est quand même assez étonnant dans un hadith de voir que le prophète nous dit qu'il ne regarde que le cœur, lui qui voit tout, lui qui sait tout. Alors il nous dit, première chose, c'est que pourquoi il ne regarde que le cœur? Parce qu'il est le lieu de l'intention. Il est le lieu où se forme notre intention, où elle va naître, elle va prendre une certaine orientation. Et ce qui est très difficile pour l'homme, c'est de saisir son intention au moment où elle naît, où elle est en train de se former. Souvent, c'est après coup qu'on prend conscience d'une intention. On se rend compte que, bah, tiens, oui, dans telle situation, je n'ai pas eu la bonne intention. Mais au moment où cette intention naît, c'est très difficile et c'est rare que les personnes arrivent à voir que ce qui vient de naître au moment même, en mon cœur, est une mauvaise intention. Donc, première chose, c'est le lieu de l'intention. Deuxième chose, Razali nous dit les termes intention, volonté et puis visée, c'est-à-dire niyam, irada et qasd, ont une seule et même signification. Qu'est-ce qu'une intention? C'est ce que je me propose comme but. C'est ça que veut dire Razali. Hein. En fait, une intention naît en nous quand un but nous apparaît, quand on veut atteindre telle ou telle chose, alors nécessairement quelque chose va naître en nous, un dynamisme va naître en nous pour atteindre ce but. Et ce dynamisme fait naître donc des intentions. Et Razali nous dit que les termes intention, volonté, donc visée, désignent un état intérieur qui sont fondés sur deux choses, la science et l'action. La science, donc, c'est ce que nous savons, ce que nous croyons savoir, même souvent, l'ensemble de notre perception du monde. C'est ce qu'on appelle la science d'une personne, en arabe. Notre degré de science, c'est lui qui détermine comment je vois le monde, la vie, etc. Et Razali nous dit que l'action est le fruit de la science. C'est-à-dire, et là c'est très très important pour la vie spirituelle, parce que il faut comprendre que toutes les actions et même les intentions d'agir naissent de ce que je sais, naissent de mon degré de connaissance. Quand vous croyez qu'une chose est dangereuse, nécessairement en vous va naître d'abord une peur, et cette peur va engendrer l'intention de faire telle ou telle chose pour échapper. Alors, il se peut que cette peur soit totalement imaginaire. Il se peut qu'il n'y ait aucun danger. Mmh. Mais si vous percevez un danger, même imaginaire, vous ne pouvez pas vous empêcher que des intentions naissent. L'intention de faire telle ou telle action pour échapper. Alors, ça c'est très important, parce que on dit souvent que, bon, tout le monde sait que tout le monde connaît le fameux hadith, les actions ne valent que par les intentions. Mais les intentions elles-mêmes, d'où viennent-elles? Comment naissent-elles? Ici, Razali nous donne une clé qui est très précieuse, je crois. Il nous dit, nos intentions naissent de ce que nous savons, ou de ce que nous croyons savoir, naissent de notre perception du monde. Et c'est pour cela qu'en réalité, Razali dit souvent que le degré de foi et le degré de connaissance, eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Notre degré de foi dépend de notre connaissance. Et notre connaissance dépend de notre foi. Si on comprend par connaissance, connaissance du cœur, pas connaissance livresque, qui, elle, dépend d'une formation scolaire, tout simplement. Mais la connaissance du cœur, elle, qui est vraiment autre chose, eh bien, c'est elle qui va déterminer la nature de notre foi et qui va déterminer aussi nos intentions et du coup nos actions. Donc on a ici une chaîne, et à l'origine de cette chaîne, donc il y a ce qui est présent dans le cœur, et ce qui est présent dans le cœur, nous dit Razali, c'est la connaissance, c'est la science d'abord, et tout va découler de là. Alors, quand on veut avoir une démarche spirituelle, quand on souhaite avoir une vie spirituelle, si on agit que sur les conséquences, eh bien on se bat un peu contre des chimères, on se bat un peu contre des fantômes qui reviendront toujours, je veux dire. Si on veut changer, par exemple, au niveau de son comportement, Razali dit souvent que le changement intérieur n'est possible que par un changement au niveau de la connaissance. Donc si l'on veut réellement changer, si l'on veut avoir une démarche spirituelle, ce que nous recommande donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, c'est d'accorder d'abord la place centrale au cœur et de comprendre que c'est dans votre cœur que tout se joue. Et qu'est-ce qui se joue? Eh bien, il se joue la naissance de vos intentions qui découle de ce que vous savez ou croyez savoir. Alors, on comprend par là que on comprend pourquoi il y a tant de versets qui invitent à la connaissance, à la méditation, à méditer. Par exemple, la méditation, c'est un exercice qui est vraiment absolument délaissé aujourd'hui, parce que on n'en comprend pas le sens. Par exemple, la sourate Al-Imran, le fameux verset 191 de la sourate Al-Imran, certes, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence et qui invoquent Dieu debout, assis, allongé, etc. Alors, donc, ce verset de la sourate Al-Imran nous dit qu'il y a des signes dans l'alternance du jour et de la nuit. Pour ceux qui méditent sur ces phénomènes. Alors, on peut comprendre ce verset de deux façons. On peut comprendre que c'est une invitation à développer les connaissances astronomiques, à développer la connaissance de ce qui cause le jour et la nuit. Pourquoi le jour apparaît, pourquoi le soleil se lève, pourquoi est-ce qu'il se couche. On peut comprendre ça comme une invitation à la recherche astronomique. Mais, et effectivement, il y a aussi ce sens-là. Ce sens est acceptable. Il y a des astronomes arabes et musulmans qui ont développé sur la base de ce verset leur recherche. Mais ça ne peut toucher qu'une petite partie de ceux qui vont lire le verset, ceux qui ont les capacités intellectuelles et puis la formation scientifique. Mais le croyant global, ordinaire, commun, lui, il n'est pas obligé de faire de l'astronomie pour pouvoir en profiter. Parce qu'il y a une méditation plus profonde, plus simple et plus primordiale sur ce verset, à savoir que dans ce monde, il y a toujours alternance. Donc alternance du jour et de la nuit, il y a alternance du bien et du mal, ou présence, disons, du bien et du mal, il y a le positif, le négatif, il y a, beaucoup de versets nous disent que Dieu a tout créé par couple, le masculin, le féminin, etc. Et donc, une prise de conscience que, en ce monde, l'unicité n'existe pas. Tout est dans la dualité et la multiplicité. C'est le monde de la dualité, c'est le monde de la multiplicité et c'est le monde de l'éphémère aussi. Les choses ne durent pas en ce monde. Elles se succèdent les unes les autres selon des cycles. Les saisons suivent les unes les autres selon des cycles. Et cette succession-là, si l'homme est capable de la remarquer, si on est capable de remarquer que, on va prendre l'exemple du jour et de la nuit, si on est capable de remarquer qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est la nuit, c'est parce qu'il y a le jour. Et si on est capable de remarquer quand il fait jour que c'est le jour, c'est parce qu'il y a la nuit. S'il n'y avait que le jour, on ne se dirait rien du tout. On ne se dirait pas il y a le jour, on dirait rien, on ne pourrait rien dire. Si on peut dire il y a le jour, c'est par contraste avec la nuit. C'est par opposition. Et donc, ce que nous pouvons remarquer, ce dont nous pouvons prendre conscience, c'est toujours par opposition. C'est par opposition que l'on sait. sans l'opposition, sans le contraste, on reste dans l'inconnu ou l'inconnaissable. Et c'est pour cela donc que ce verset nous parle de l'alternance des jours et de la nuit. Alors, la même façon, si on remarque, et ben effectivement, voilà, c'est parce qu'il y a le jour que je sais qu'il y a la nuit, etc. Si on développe cette méditation sur le temps et l'éternel, eh bien on se rendra compte que si on est capable de remarquer que le temps passe, c'est parce qu'on a en nous la notion de ce qui ne passe pas. Si on est capable d'avoir la notion de la temporalité, c'est parce qu'on porte en nous la notion de l'éternité. Sans la notion de l'éternité, on ne se dirait pas que le temps passe, on ne se dirait rien du tout, comme l'animal ne se dit rien. Il n'a pas la notion du temps qui passe, du temps qui s'écoule. Cet écoulement, eh bien, il faut bien, pour en prendre conscience, avoir un point de repère immobile. Voilà. Et donc l'homme porte en lui l'éternité, il porte en lui la conscience de l'éternité. Comme une évidence, quelque chose qui est évident en l'homme, qu'il soit croyant ou non croyant d'ailleurs. Alors vous voyez, la méditation ou les méditations auxquelles nous invite le Coran prennent appui sur les phénomènes de la nature, bien sûr, mais pas pour s'enfoncer dans les lois de la nature, comme peut le faire la science moderne, qui va toujours plus loin dans le détail des sciences de la nature, et qui pense qu'elle arrivera un jour à quelque chose d'ultime, et en fait non. Je veux dire, par exemple, sur la structure de la matière, au début du siècle, les savants étaient très contents, ils se sont dit, on a enfin trouvé la structure ultime de la matière, l'atome. Puis ensuite, ils se sont rendus compte, quelques décennies après, ben non, en dessous de l'atome, il y a encore autre chose. Il y a les électrons, les protons, les neutrons, etc. Donc on s'est dit, ah, là, on tient la structure ultime de la matière. Et puis on s'est rendu compte que non, les particules élémentaires elles-mêmes, sont encore constituées de particules plus élémentaires. Et c'est indéfini, en réalité. C'est indéfini. Il n'y a pas de connaissance ultime dans le monde du dunya. Et au contraire, il faut remonter de la multiplicité à l'unicité. Et c'est ça la méditation auquel nous invite le Coran. Cette remontée de la multiplicité à l'unicité, cette remontée des lois de la nature aux lois métaphysiques, à l'unicité métaphysique, l'éternité, l'unicité, etc. Et bien c'est ça qui détermine la connaissance du cœur. Quand quelqu'un... développe l'évidence de l'éternité. Je dis que tout le monde porte cette évidence, c'est vrai, mais certains ont cette conscience de manière beaucoup plus aiguë que d'autres. Ils perçoivent avec beaucoup plus d'acuité et de finesse le caractère éphémère des choses. Et d'autres, tout en sachant que les choses sont éphémères, parce que tout le monde sait qu'il ne sera pas éternel sur Terre, et pourtant, tout le monde n'en tire pas les mêmes conséquences, et tout le monde ne prend pas cette connaissance avec le même sérieux. Certains prennent très au sérieux le fait qu'ils sont éphémères et qu'ils vont mourir. D'autres le savent de manière très superficielle, c'est quelque part dans leur tête, mais ça n'implique rien de spirituel. Le degré de connaissance du cœur, on pourrait dire c'est ça. C'est la finesse et l'acuité avec laquelle on tire les conséquences de ce que l'on sait. Et forcément, quand on tire les conséquences de ce que l'on sait, quand on médite sur ces vérités, ces évidences que porte le cœur, hein, j'ai parlé de l'évidence de l'éternité, de l'évidence de l'unicité aussi, qui est présente dans tous les cœurs. C'est aussi ce qu'on appelle al-fitra. La fitra, c'est la connaissance innée du cœur. Hein. Mais tout le monde n'a pas le même degré de conscience de ce qu'il porte en lui. Et du coup, tout le monde ne va pas avoir la même vie spirituelle. Alors, je vais lire la suite du texte de Razali, toujours tiré du quatrième tome de l'Ihtisas. Il nous dit, l'action requiert donc trois choses pour s'accomplir. Pour qu'un acte puisse se faire, hein, il faut qu'il y ait trois choses, nous dit Razali. La science, la volonté et la potentialité, le qudra, la capacité d'agir. En effet, l'homme ne veut que ce qu'il connaît. La connaissance est donc nécessaire à la naissance d'une volition, d'une volonté. Ça, c'est très important. L'homme ne veut que ce qu'il connaît, nous dit Al-Ghazali. Quand le croyant se plaint d'avoir des idées ou des intentions qui ne sont pas louables, qu'il aimerait prendre une distance avec ses mauvaises intentions ou ses mauvais comportements, et qu'il a bien du mal parce que ça revient toujours, les mauvaises pensées reviennent. Pourquoi elles reviennent ? Elles reviennent parce que quelque chose les fait naître. Et qu'est-ce qui les fait naître ? Notre vision du monde. On ne peut pas à la fois avoir une vision du monde complètement éclatée et en même temps dire « Ah non, mais moi je prends du recul par rapport au monde ». On ne peut pas croire que le monde est absolument réel et vouloir prendre du recul. Ça n'a pas de sens. Celui pour qui le monde est absolument réel et qui est la seule réalité, fatalement, son cœur est attiré vers le monde et il est comme esclave des désirs et de ce qui se trouve dans ce monde. Celui qui réalise que la réalité des choses est très relative, d'abord parce qu'elles sont transitoires, elles sont éphémères et que rien ne dure. Celui qui réalise que leur réalité est très relative, alors lui, effectivement, il peut prendre du recul et se dire « Non, finalement, je ne suis pas si attaché que ça à ces choses-là. » Hein? Alors cette phrase de Razali qui est toute simple, hein? « L'homme ne veut que ce qu'il connaît », elle est très importante. Il ne s'agit pas de se dire « Non, ça, c'est quelque chose qui m'est interdit et je dois absolument m'en préserver. » Et ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est, entre guillemets, convaincre le cœur que ça n'est rien du tout, ça n'est pas grand-chose, ça n'est qu'un mirage qui est là et qui va disparaître. Quand le cœur est convaincu qu'il est face à un mirage, alors l'importance des choses diminue énormément. Exactement comme quelqu'un qui fait un cauchemar, il est terrorisé, pourquoi ? Parce que dans le sommeil, il n'y a pas la capacité de se dire « c'est irréel ». Tant qu'il rêve, c'est la réalité pour lui. Donc il est terrorisé. Et puis quand il se lève et qu'il prend conscience que ça n'était qu'un rêve, alors finalement ça, la chose devient très très relative et puis il l'oublie très rapidement. Hein. Ça c'est très important, vraiment, de se rendre compte que finalement ce qui nous constitue, ce qui constitue le centre de ce que nous sommes, ce qui constitue le cœur de ce que nous sommes, c'est la connaissance. C'est une démarche de connaissance. La foi et la spiritualité est une démarche de connaissance. Et Razali s'est battu toute sa vie pour ça. S'est battu toute sa vie pour qu'on comprenne que la foi n'est pas imitation aveugle, et taqlid, le fait que bon ben voilà, mes parents étaient dans telle religion, alors du coup j'y suis. Dans le village où j'habite, on est dans telle religion, alors j'y suis. Non, il disait que il faut absolument prendre conscience que c'est une démarche donc de foi, et cette démarche de foi doit s'accompagner d'une démarche de connaissance. Il nous dit ensuite, toujours dans le même passage, celui qui ne perçoit pas la nourriture et ne la connaît pas ne peut pas se la procurer, et celui qui ne perçoit pas le feu ne peut pas l'éviter. Pour cela, Dieu a créé la guidée et la connaissance. Il leur a assigné deux canaux, ce sont les sens externes et les sens internes, mais là n'est pas notre sujet. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit que Dieu a donné à l'homme deux canaux de connaissance, les sens externes, donc la vue, l'ouïe, etc., être capable de percevoir le monde qui nous entoure, et puis les sens internes. Une source de connaissance qui n'est pas liée au monde extérieur et qui est un ensemble d'évidences que nous portons en nous et avec laquelle on peut renouer en fonction de notre chemin spirituel. Et ces deux sources de connaissance, donc les canaux externes et les canaux internes, sont faits pour se nourrir et se répondre les uns aux autres. C'est très difficile de revivifier sa connaissance intérieure sans passer par la connaissance extérieure. C'est très difficile. On ne dit pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Ce qui veut dire que les phénomènes de la nature que l'on peut observer, ils sont un excellent rappel de la connaissance que nous portons en nous-mêmes. L'observation et la méditation sur les phénomènes de la nature, ça peut être vraiment un support privilégié pour renouer avec sa fitra, pour renouer avec cette connaissance que Dieu a placée en nous, si on comprend ce que veut dire méditer. Parce que le grand problème aujourd'hui de l'observation de la nature, c'est que la science moderne a observé la nature à partir d'un point de vue très particulier, qui est le point de vue matérialiste, et elle présente ça comme la connaissance de la nature, la seule connaissance possible de la nature. Et puis alors, beaucoup de musulmans, beaucoup de croyants, de toute religion d'ailleurs, pensent que c'est ça, la seule connaissance de la nature, c'est ce que la science moderne nous offre, parce que ce que les anciens disaient, c'était plus ou moins imaginaire ou inventé. Alors, cette approche-là, alors, elle a apporté un certain nombre d'innovations qui sont intéressantes, mais en même temps, elle a déformé par la force des choses la capacité de méditation des croyants. Quand les anciens voyaient un phénomène de la nature, qui n'était donc pas, ils n'avaient pas tous les détails que nous pouvons connaître, parce qu'en réalité, on connaît une quantité incroyable de détails sur la nature aujourd'hui. Hein. Même quelqu'un qui n'est pas scientifique, il connaît des tas de choses par la vulgarisation donc, de la science moderne. Quand un ancien regardait un phénomène de la nature, il connaissait certes beaucoup moins de choses, mais il méditait d'une manière beaucoup plus profonde. Hein. Et nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire comme si il n'y avait pas la science moderne. Elle est là, autant en profiter, autant la rendre utile. Mais il s'agit aussi alors de trouver l'équilibre et de ne pas être déséquilibré entre des montagnes d'informations sur les différents phénomènes de la nature et puis une incapacité à méditer sur le sens profond. Si vous voulez, la science nous parle du commun. Comment les phénomènes de la nature sont structurés, par quel processus ils passent. La méditation, elle, nous amène au pourquoi. Pourquoi ce phénomène de la nature existe? On va prendre un exemple. Le Coran cite très souvent la parabole de la terre desséchée et morte qui revit par la pluie qui tombe du ciel et qui donne des fruits en abondance, etc. Vous l'avez dans la sourate Yassine, vous l'avez dans la sourate Al-Kahf, dans la sourate Al-Baqarah. C'est très 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 souvent donner l'exemple de l'Ardul Maïta, la terre donc morte, qui va retrouver la vie par la pluie qui descend du ciel. Alors, il y a évidemment des phénomènes de biologie et de botanique là, mais il y a avant tout le fait que si une terre complètement desséchée et absolument morte peut retrouver la vie par la pluie qui descend du ciel, c'est que le cœur complètement desséché et complètement fermé à la foi peut retrouver la vie par la pluie spirituelle qui va descendre. Et la pluie, c'est évidemment les versets, c'est le symbole donc des versets qui descendent et qui vont redonner la vie au cœur. Donc cette observation de la nature qui nous est proposée dans le Coran et en particulier donc pour le phénomène de la terre morte qui retourne à la vie doit nous amener à prendre conscience d'une réalité qu'on porte tous en nous. C'est qu'à certains moments notre cœur est plus sec, il est un peu aride, et à d'autres moments il est beaucoup plus vivant, beaucoup plus riche et beaucoup plus il donne des fruits en abondance, disons. Ça c'est un phénomène que nous portons tous en nous, et ces phénomènes d'aridité sont inévitables dans la vie d'un croyant. Comme une terre, elle ne peut pas toutes les années donner autant de fruits. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dû vivre ce qu'on a appelé al-fatra, la période un peu sèche, qui a suivi juste les premières révélations. Les premières révélations donc sont arrivées, et puis ensuite il y a eu un vide. Et ça a été très très difficile pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait l'impression d'avoir été abandonné par Dieu, et peut-être d'avoir fauté et d'avoir par ses fautes arrêté la révélation. Donc c'était quelque chose de très très douloureux pour lui. En même temps, à cela venait s'ajouter que puisque la révélation ne venait plus, alors les Quraysh en riaient et puis en tiraient profit. Donc c'était une période très très dure jusqu'au retour de la révélation par la sourate Ad-Duha, où donc Dieu jure que par la matinée Dieu ne t'a pas abandonné et ne t'a pas pris en haine, etc. Donc c'était le grand retour, disons, de la révélation. Mais ce passage à vide, entre guillemets, qu'a vécu donc le prophète, tout croyant est amené à le vivre, puisqu'on suit son cheminement. Et l'exemple donc de la terre desséchée doit être à ce moment-là pour nous une source de méditation, de rappel et de confiance et d'espoir.
Barakallahu fik pour ces enseignements. On va, Inch'Allah, s'opérer une petite pause. On rappelle les coordonnées 03 73 59 00. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. On se retrouve d'ici quelques minutes, Inch'Allah. Okay. Alors, et comme de retour sur les ondes de Pastel FM, donc avec Tayeb Chouref, qui est traducteur et écrivain d'Al-Ghazali, déjà venu lors de l'émission précédente. Aujourd'hui, on parle du cœur et des enseignements spirituels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu nous donner en ce domaine qui est a priori très 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 vaste et qui demande effectivement beaucoup de méditation pour comprendre en tout cas ces enseignements. Inch'Allah, on va continuer.
Naam. Alors là, j'aimerais citer un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va distinguer quatre types de cœurs et où, en quelque sorte, il va englober, disons, tous les types spirituels dans ces quatre types. An Abi Sa'id, al-qulub arba'a. Qalbun ajrad, fihi mithla siraj yazhar. Qalbun aghlaf, marbutun ala ghilafihi. Wa qalbun mankous. Alors, donc d'après Abu Sa'id al-Khudri, il y a quatre types de cœur. Le cœur dépouillé, ajrad, dans lequel se trouve une lumière semblable à un flambeau qui illumine. Le cœur enfermé dans une enveloppe. Le cœur inversé et le cœur divisé. Alors, donc il y a ces quatre donc, types de cœur. Et puis ensuite, évidemment, le prophète va nous donner des détails. Il nous dit, le cœur dépouillé est celui du croyant. Et le flambeau qui s'y trouve est sa lumière qu'il a reçue de Dieu. Le cœur enfermé est celui du non-croyant. Le cœur inversé est celui de l'hypocrite qui connaît mais refuse la vérité. Le cœur divisé est celui dans lequel se trouve une part de foi et une part d'hypocrisie. La part de foi qui s'y trouve est comparable à une bonne plantation arrosée par une eau pure, et la part d'hypocrisie qui s'y trouve est comparable à une blessure baignée de pus et de sang. Celle qui sera la plus forte parmi les deux tendances dominera le cœur. Le hadith nous est cité par l'imam Ahmad ibn Hanbal. Dans ce hadith, donc, nous avons quatre types de cœur. D'abord, on va citer celui qui est le plus élevé, c'est le cœur illuminé. En arabe, c'est al-qalb al-ajrad alladhi fihi as-siraj. Donc, celui qui possède une lumière comparable à un flambeau, nous dit ici le hadith. Alors lui, évidemment, bah, c'est celui qui est vraiment dans le lien avec son Seigneur, qui a reçu cette lumière et qui est illuminé. D'accord. Ensuite, il y a le cœur enfermé dans une enveloppe. Ce cœur enfermé, lui, il est complètement opaque. Hein, c'est le cœur qui est mort dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le terme donc enveloppe marque bien l'impossibilité de recevoir quelque chose qui lui viendrait en fait de l'extérieur. Il est enfermé sur lui-même. Ensuite, il y a le cœur inversé, al-qalb al-mankous. Alors le cœur inversé, c'est celui qui, nous dit le hadith, qui est dans l'hypocrisie. Il sait où est la vérité et pourtant il la refuse. Mais pourquoi est-ce que il est désigné comme étant le cœur inversé? C'est que pour lui, le bien devient le mal et le mal est le bien. À savoir que l'hypocrisie de l'hypocrite n'est pas vécue pour ce qu'elle est en tant qu'hypocrisie. Il ne se dit pas « oui, je suis un hypocrite et je suis fier de l'être ». Il se dit « tout le monde cherche son intérêt. Et moi, je cherche mon intérêt. Et mon intérêt, je l'ai trouvé en faisant ceci et cela. » Je veux dire, les hypocrites du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient des gens qui cherchaient leur intérêt et qui pensaient que le prophète lui-même cherchait son intérêt. Vous voyez ? Donc, pour l'hypocrite, chercher son intérêt et le bien par excellence, c'est réellement... La meilleure chose qu'un homme a à faire, c'est chercher son intérêt. Voilà. Donc il a évidemment, il est à l'envers. Et puis enfin, il y a le cœur donc divisé. Et c'est celui-là qui est le plus développé dans le hadith. Et on va comprendre pourquoi par la suite. Le cœur divisé, c'est celui qui a une part de foi et une part d'hypocrisie. Et pourquoi on peut comprendre que c'est ce cœur-là qui a retenu l'attention et les explications donc, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, c'est parce que c'est la majorité, c'est le cas de la majorité donc, des gens. Il y a une part de sincérité et puis une part d'hypocrisie aussi. Et on va lire le commentaire de Razali sur cette part-là. Il nous dit donc, ce hadith se termine par cette phrase: la part qui sera la plus forte parmi les deux tendances emportera le cœur. Ce qui veut dire que ce qui est grave dans cette situation, ce n'est pas d'avoir une part de sincérité et puis une autre part qui manque de sincérité. C'est la priorité que l'on va donner à l'une ou l'autre part. Le fait de posséder en soi ce manque de sincérité n'est pas n'implique pas une condamnation à l'avance. Par contre, le travail de sincérité, en quoi est-ce qu'il consiste? Il consiste à toujours essayer de faire la part des choses en soi, essayer de voir d'où provient en moi cette intention et de donner la priorité donc à ce qui est spirituel en nous. On en a longuement parlé lors de l'émission sur la purification du cœur. Les tendances négatives donc de l'âme, elles sont là, elles sont présentes. Et puis ça va être en fonction de ce que l'on va nourrir en nous. Eh bien, en fonction de cela, cette part va diminuer jusqu'à disparaître, ou bien va grandir jusqu'à nous emporter. Et c'est bien ce que nous dit ici donc le hadith, que la part la plus forte donc va dominer le cœur. Cette division donc des cœurs en quatre types, moi je crois qu'elle est vraiment très éclairante pour l'homme, et elle est très éclairante pour quiconque cherche à avoir un cheminement spirituel. D'abord parce qu'elle nous aide à nous situer, à savoir où nous sommes, et puis ensuite parce qu'elle nous permet de comprendre que il n'y a pas de fatalité dans la vie spirituelle. Il n'y a aucune fatalité. Tout dépend des choix que nous prenons au jour le jour, au quotidien, dans les petits faits de notre quotidien, dans les petites choses de notre vie. Parce que chaque événement que nous sommes amenés à vivre implique un choix, implique je vais choisir telle option plutôt que telle autre. Et quand le hadith se termine en disant celle qui sera la part la plus forte parmi les deux tendances va emporter le cœur, ça n'est pas pour une action ou deux actions ou trois actions, c'est sur le long terme. C'est cette accumulation effectivement de petits choix qui va faire que on devient ou sincère ou hypocrite. Alors donc le cœur divisé, le qalb al-musfah, va rejoindre soit al-qalb al-ajrad, le cœur purifié et dépouillé, ou alors al-qalb al-mankus, le cœur inversé. Et ces choix que nous faisons donc au jour le jour, on a vu tout à l'heure, qui sont en fonction aussi de notre degré de connaissance, de notre perception de ce qui est réel ou pas, et de notre orientation intérieure. Alors, l'orientation du cœur, qu'est-ce que c'est? Le cœur, en fait, il est souvent comparé à un miroir. Dans plusieurs hadiths, on a cette image du miroir qui va refléter ce vers quoi il est tourné. Donc, en fait, ce qui est présent, ou ce qui est reflété, disons, par le miroir, n'est pas lié à la nature du miroir. Il est lié simplement à son orientation. Donc ce qui se trouve dans le cœur, si on garde cette image, n'est pas réellement lié à sa nature propre, qui est la fitra, qui est naturellement bonne, mais lié à ce vers quoi il se tourne. Et le travail spirituel donc consiste à savoir tourner son cœur dans la bonne direction. Et d'ailleurs, la Qibla, donc l'orientation géographique de la Mecque, n'est qu'un symbole. C'est le symbole de la bonne orientation du cœur. Le cœur donc qui est orienté vers Dieu. Donc là, encore une fois, on retrouve le principe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que les choses extérieures sont toujours une aide pour notre vie intérieure. Quand l'islam institue donc l'orientation de la Qibla, c'est aussi, c'est évidemment pour fédérer, souder la communauté, mais c'est aussi pour orienter le cœur, pour apprendre à s'orienter intérieurement. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas plus au sud-est qu'au sud-ouest, qu'au nord ou qu'au sud, d'accord ? Pourtant, on doit bien se tourner vers une direction en islam. Ça montre bien qu'effectivement, l'islam, comme toute religion d'ailleurs, prend toujours appui sur le visible pour nous faire accéder à l'invisible. Prend toujours appui sur ce que l'on peut voir à l'extérieur pour nous enseigner ce que nous n'avons pas sur notre intérieur. Le domaine du cœur, c'est un domaine extrêmement élevé et difficile. On ne peut pas tout en comprendre juste en une heure, effectivement. Mais si on prend cette habitude, disons, de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, alors on apprend à nourrir notre spiritualité. On apprend à faire le va-et-vient, disons, entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure que la méditation sur les phénomènes de la nature est une grande aide pour méditer sur notre cœur. De la même façon, le mouvement inverse est vrai aussi. C'est que nous sommes à l'intérieur, rayonnés sur l'extérieur. Et on ne peut avoir d'action valable et porteuse, disons, de changement, de grâce, de baraka, de bénédiction, que si cette action vient du fond du cœur. Donc il y a vraiment, au niveau du cœur, il y a vraiment les deux mouvements qui doivent être présents. L'extérieur nous nourrit à l'intérieur, notre intérieur nourrit notre extérieur. Quand on voit qu'on a du mal ou même de l'impossibilité à changer l'extérieur, eh bien il faut avoir le bon réflexe de se tourner vers notre intérieur, de nous dire, bon, si mon projet, si mon entourage, si ma famille, si mes proches, si j'ai du mal à faire avancer les choses, évoluer des choses, eh bien il faut se poser la question de l'intérieur. Avant de se poser la question, peut-être qu'il y a un élément que j'ai oublié à l'extérieur, se poser la question du cœur et de l'intérieur. Parce que notre action ne va rayonner et n'avoir, disons, de force et d'efficacité qu'en fonction de sa profondeur en nous. Le cœur a des degrés de profondeur. Il a des couches extérieures et des couches plus intérieures. On peut très bien vouloir une chose de manière très extérieure et pas le vouloir de manière intérieure. Je vais donner un exemple pour être plus concret. Et ça, la psychologie moderne en parle vraiment de long en large et l'étudie à fond. C'est qu'on peut avoir des intentions qui se contredisent. C'est-à-dire, je peux superficiellement vouloir travailler, être en relation avec d'autres et intérieurement être complètement fermé à la relation. Vous avez des gens qui à la fois veulent être publics et à la fois sont des gens crispés, qui ont du mal à s'ouvrir, qui ont du mal à parler, qui ont du mal à se confier, qui ont du mal à s'ouvrir à l'autre, tout simplement. Alors comment comprendre qu'il puisse y avoir ces deux tendances qui ne sont pas compatibles en principe ? Soit je suis renfermé et timide ou alors soit je suis extériorisé et ouvert vers l'autre, etc. Non, vous avez souvent les deux à la fois. Vous avez souvent les deux tendances. Ça veut dire que l'un et l'autre n'ont pas le même degré de profondeur en l'homme. Et en fonction du degré de profondeur, c'est l'une ou l'autre tendance qui va l'emporter. C'est vrai pour tout. Vous avez des gens qui souhaitent œuvrer pour les autres et qui en même temps sont fainéants. Alors, ils portent les deux en eux, ils veulent rendre service et en même temps ils sont fainéants, avoir de très gros efforts ou faire de gros efforts, ça leur est pénible et ça est pénible à beaucoup d'entre nous, hein. c'est pas le propos, mais enfin disons que très souvent on peut avoir ces deux couches là qui se superposent. Alors qu'est-ce qui va faire que le projet va être mené jusqu'au bout? Eh bien, ça va être la manière dont ces deux tendances sont présentes dans le cœur. Celle qui sera celle qui sera la plus profonde, eh bien, va l'emporter. Donc, celui qui est profondément fainéant et superficiellement actif va s'arrêter au bout de 15 jours, 3 semaines. Vous allez le voir dans les premiers temps, il va être le premier à porter les banderoles et à crier sur les toits. Et au bout de 3 semaines, on ne le voit plus. Mmh. Voilà. Alors ça, c'est très important de comprendre que notre cœur est musfah, comme nous dit ici le professeur Salim, il est divisé, il porte en lui des intentions divisées. Et la foi, c'est aller vers l'unification, il faut unifier ses tendances. Il faut passer de cette division à l'unification. Et c'est là où un hadith donc, du prophète nous parle de cette division comme étant un des mots les plus graves qui peut toucher l'homme. Ali ibn Omar, donc d'après le fils de Omar, من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. Celui qui unifie toutes ses préoccupations pour n'en garder qu'une seule sera préservé par Dieu de tous les soucis du bas monde et de l'au-delà. Quant à celui qui se laisse disperser par les préoccupations, Dieu ne se soucie guère de la manière dont il périra. Alors ce verset et ce hadith est très dur, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que si on porte en nous des tendances complètement divergentes et qu'on ne met pas d'ordre à l'intérieur, eh bien, on ne peut pas en même temps ne pas mettre de l'ordre en nous-mêmes et attendre l'aide qui vient de Dieu. Dieu ne donne pas son aide si on ne met pas de l'ordre en nous à l'intérieur. Il y a évidemment le fameux verset qui dit « Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en lui-même ». Eh bien, c'est un peu cela, mais appliqué, disons, plus précisément aux tendances du cœur ici. Voilà. Si on ne met pas de l'ordre dans notre cœur, on ne peut pas prétendre recevoir l'aide, on ne peut pas prétendre recevoir le soutien d'Allah. Et donc cet état qui est, on a dit tout à l'heure, hein, le qalb al-musfah qui concerne la majorité donc d'entre nous, doit faire l'objet d'une introspection, d'une muhasabat al-nafs. On doit faire un état des lieux, on doit essayer de voir plus clair en nous quand je veux quelque chose et qu'en même temps je traîne les pieds pour le faire, c'est que je ne le veux pas entièrement. C'est qu'il y a une partie de moi qui le veut, puis une autre partie qui me retient dans le sens inverse. C'est tout simple. Et pourtant, est-ce qu'on se l'avoue facilement? Non. Surtout quand il s'agit de choses que l'on estime être nobles. Quand on est impliqué dans un projet qui est noble et qu'on traîne les pieds, c'est difficile de s'avouer qu'en vérité, voilà, on n'est pas entièrement sincère. Parce qu'on ne traînerait pas les pieds pour un projet qui est noble si on était entièrement sincère. Voilà. Alors la muhasabat an-nafs ne consiste pas à se flageller en se disant voilà, en vérité, je suis comme ci, je suis comme ça, je ne suis pas sincère, évidemment. Mais la muhasabat an-nafs demande d'abord d'être authentique envers soi-même, même dans ce qui nous est difficile à accepter, même quand c'est des choses qui sont nobles et qu'on n'aimerait pas, en fait, nous avouer à nous-mêmes que même dans les choses nobles, eh bien, on n'a pas forcément la bonne attitude. Mais c'est vraiment l'étape nécessaire pour se clarifier en soi-même et pour ensuite unifier, comme nous dit le hadith, naj'al al-humum hamman wahidan, unifier donc son projet, sa préoccupation vers un seul but, vers une seule direction, disons. Et tout cela se joue dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'on voit que le cœur est le théâtre de combats quotidiens, avec des batailles en rangée, et ces batailles sont quotidiennes dans le cœur de chacun d'entre nous, entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, et puis en fonction des priorités que l'on se donne ou pas. Alors, unifier son intérieur demande évidemment de le faire par بالتدريج, progressivement. On ne va pas pouvoir mettre de l'ordre partout. Il faut d'abord commencer à mettre de l'ordre là où on le peut. Il s'agit donc de gagner des petites victoires. Et c'est en allant de petite victoire en petite victoire que l'on peut un jour atteindre cette unification du cœur. Bien souvent, quand on entend des témoignages donc de gens qui parlent de leurs difficultés spirituelles, on a des témoignages qui vont dans le sens d'un découragement parce que les efforts qu'ils font tiennent quelque temps et puis après il n'y a plus rien. Et ça, c'est une grande cause vraiment de découragement. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ne commencent pas forcément par la bonne chose. Il y a un jeu d'enfant, mais qui pourtant est peut-être vraiment un très bon symbole du travail sur le cœur. C'est le jeu où il faut tirer son épingle du jeu. Hein, le jeu où il faut tirer en fait une espèce de petites baguettes sous d'autres baguettes qui sont entremêlées. Voilà. Pourquoi ce jeu est intéressant ? Parce que si on ne faisait pas la bonne baguette, eh bien on fait tout tomber.
Mikado.
Voilà, exactement. C'est le Mikado. Si on tire la bonne baguette, on peut réussir à démêler les choses sans tout casser. Eh bien, c'est une petite image toute simple hein, pour parler du travail du cœur. Si vous vous attaquez à des défauts qui sont ancrés depuis trop longtemps et qui demandent une éducation spirituelle, une tarbiya, eh bien, à ce moment-là, souvent, on risque de tourner en rond, de s'épuiser, de faire beaucoup d'efforts en s'épuisant. Par contre, si on travaille sur un défaut bien ciblé, dans le cadre d'une éducation spirituelle, eh bien là, on peut espérer, au bout d'un certain temps, retrouver ce dont nous parle ici le prophète, c'est cette clarté intérieure, cette unification intérieure. Et c'est toute l'importance de l'éducation spirituelle, de la tarbiyya ar-ruhiyya. Cette éducation spirituelle que l'on peut recevoir donc auprès d'un maître spirituel, d'un homme qui a cette sagesse, cette connaissance intérieure, elle nous permet, outre les conseils généraux qu'on trouve déjà dans le Coran, dans les hadiths, il y a déjà un ensemble de recommandations et de conseils qui sont extrêmement précieux. Mais outre cela, il y a des choses plus particulières à chacun, à chaque cœur, on pourrait dire, des problèmes propres à chaque cœur, qui peuvent être éclaircis par l'expérience donc des hommes spirituels. Et quand les choses sont faites dans l'ordre, sans excès, sans exagération, eh bien, on peut espérer ne pas s'épuiser et avancer sur un long chemin. Et c'est pour cela donc, que le prophète a dit que la meilleure des actions auprès de Dieu est celle qui est sur le long terme, même si elle est peu importante, c'est-à-dire si elle avance pas après pas. En disant cela, il veut nous faire prendre conscience d'une réalité du cœur aussi. Alors, il ne nous cite pas le cœur ici, mais il nous parle encore d'une réalité du cœur, à savoir que vous ne pouvez pas vous transformer du jour au lendemain. Par contre, vous pouvez poser brique après brique pour construire votre demeure intérieure. Et cela, ça demande la persévérance, d'une part, et la longévité dans l'action. Et ce qui manque beaucoup à l'homme, c'est la persévérance. Parce que comme le dit Allah, l'homme a été créé de précipitation, al-ajal. Donc Dieu a fait en sorte que l'ajal, c'est une composante de notre personnalité, la précipitation. On est, entre guillemets, ou l'âme en tout cas, est naturellement précipitée. Et c'est pas naturel pour elle de savoir faire les choses dans le long terme, dans la patience, dans la continuité. C'est pas quelque chose qui est spontané, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut s'éduquer pour apprendre à faire les choses sur le long terme. Si on en reste, disons, à la spontanéité de l'âme, eh bien, on est dans la précipitation. On veut tout de suite. Et comme les choses n'arrivent pas, eh bien, on baisse les bras. Quand on lit la vie des Sahaba, quand on voit leur degré spirituel, quand on lit la vie des grands saints en islam, la vie de Ghazali, d'Ibn Arabi, de l'Emir Abdel Qadir, d'Abdel Qadir al-Jilani, on est à la fois transporté, à la fois on se dit, mais ce sont des exemples inatteignables. Inatteignables, oui, bien sûr, en tout cas sur le coup, mais eux-mêmes ne sont pas construits en un jour. Et les compagnons ne sont pas construits en un jour non plus. Et c'est cette connaissance du cœur qui nous permet d'être patient. Quand on comprend la nature du cœur, on est plus, disons, démotivé et puis complètement anéanti par le fait que il nous faut du temps pour progresser. Donc cette connaissance du cœur, elle est à la fois effectivement profonde, spirituelle, elle demande du temps pour le comprendre, et en même temps elle est spontanée parce que tous les jours on fait l'expérience, comme je l'ai dit, de combats qui se passent en nous, dans notre cœur. Tous les jours on fait l'expérience de priorités qu'on donne dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et donc tous les jours, soit on gagne un peu de terrain dans cette bataille, soit on en perd un peu. Et la grande difficulté, c'est que quand on perd trop de terrain, eh bien on est complètement, on coule complètement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les 5 hadiths que je viens donc de citer. Et puis dans le livre, il y aura beaucoup plus de détails, disons, hein, sur les commentaires de ces hadiths. Il y en a d'autres. Hein. Le chapitre sur le cœur contient une bonne dizaine, disons, donc de hadiths, avec autant de commentaires de Razali, du Cheikh Ad-Darqawi, mais aussi des salafs. Hein, les salafs sont les premières générations de l'islam, et ils ont beaucoup, beaucoup insisté dans leur enseignement sur le cœur. Ce qu'on possède aujourd'hui des salafs, ce sont en général que des citations. On n'a pas de livres, hein, qui ont été écrits par eux, ce sont des citations. Et ces citations tournent essentiellement autour de Zohed Fit Dunya, le détachement par rapport à l'appétit du monde, et puis Al-Qalb, Tasfit Al-Qalb, la purification du cœur. Donc l'enseignement des salafs est vraiment un retour, disons, au centre de l'enseignement du prophète. C'est en ce sens où Razali a bien compris que pour revivifier l'islam, comme il a voulu le faire, il a fallu retourner au salaf. C'est pour ça que la démarche de Razali, c'est un soufisme salafi. Razali est un salafi, hein, au sens où il comprend qu'effectivement, il faut revenir. Mais le retour qu'opère Razali, il est très différent de certaines mouvances qui peuvent se réclamer aujourd'hui donc, du salafisme. En tout cas, nous, quand on lit les textes, quand on revient aux textes des salafis, quand ce n'est pas juste une banderole que l'on affiche ou un slogan que l'on affiche, quand c'est vraiment un retour aux paroles des salafs, je pense à Hassan al-Basri qui a beaucoup parlé sur le cœur, Ad-Darani, je pense à Ibn Musayyib, tous ces salafs là nous ont laissé des perles précieuses, on pourrait dire, hein, sur la nature du cœur et sur comment ils ont compris les hadiths qui parlent du cœur.
Barakallahu fik pour ces enseignements. Je rappelle qu'on peut retrouver effectivement tous ces enseignements sur ton livre, Inch'Allah, qui va sortir d'ici un mois.
Un mois et demi.
Les enseignements spirituels.
Alors le titre, tout à fait, sera simplement Les enseignements spirituels du prophète.
Barakallahu fik, donc à travers un recueil de hadith.
C'est un recueil de hadith en deux volumes et commenté donc par Salaf al-Umma et par les grands chouyours de la Umma aussi.
Barakallahu fik. Et on rappelle que le 9 avril, donc ce mercredi prochain, Inch'Allah, à 19h, donc une conférence d'Eric Younes Geoffroy autour de son livre Initiation au soufisme.
Tout à fait.
Et cela dans le Vieux Lille, avenue du peuple belge, à la salle de la Halle au Sucre. Quant à nous, Inch'Allah, on risque de se retrouver avant la fin de l'année.
Oui, je pense.
On va se retrouver. Non, mais il y a eu des impondérables.
Tout à fait.
Donc voilà, donc Inch'Allah, on va se retrouver. Donc vous, sur les ondes de Pastel FM, on rappelle l'émission La Prophétie. Vous êtes sur le 99.4. Restez sur les ondes. Juste après, c'est l'émission Safina. Donc émission sur le chant religieux. Quant à nous, Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine. Barakallahu fikoum.
BFM Info.
À l'occasion de l'organisation de la deuxième journée culturelle Trait d'Union, ayant pour thème Le musulman dans le monde contemporain, qui aura lieu le dimanche 6 avril 2008 à 14h45 à la salle Colisée, rue de l'Eiffel à Roubaix, en présence de Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris et président du CFCM, professeur Malika Diff, professeur en théologie et écrivain, professeur Fodil Benabadji, expert à l'UNESCO sur les activités de dialogue entre les civilisations, cultures et religions, et du docteur Mohamed Ben Redouane, enseignant en sciences islamiques dans les universités et ancien ministre des Affaires religieuses. Infoline 06 22 44 05 46 06 22 44 05 46.
La civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission, animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif, vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontre et Dialogue.